De ce que Mireille nous apporte avec Audrey Gorin, on va brosser donc les problématiques qui infiltrent alors la clinique psychiatrique, peut-être sur des niveaux qui nous sont plus familiers au jour le jour. Audrey, à vous.
Merci. Je vais peut-être attendre d'avoir mon PowerPoint. Voilà, merci beaucoup. Donc moi, on m'a demandé de traiter la question de la sexualité en pratique psychiatrique en étant assez pragmatique et en parlant des situations qu'on peut rencontrer, donc encore une fois dans notre pratique, que ce soit en consultation ou en unité d'hospitalisation. C'est un sujet qui est extrêmement vaste, donc j'ai essayé de vous faire un petit peu, en fonction de ma pratique, en fonction de ce que j'ai pu lire dans la littérature, un petit résumé de tout ça. Alors c'est vrai que c'est assez frustrant parce que j'ai l'impression d'effleurer un petit peu chaque thème sans les approfondir, mais c'est un panorama et puis on pourra débattre après sur le temps des questions. Alors moi, si j'ai commencé le diplôme de sexologie, c'est parce que dans ma première année d'internat, il y a des patients qui ont commencé à me parler d'effets secondaires sexuels, de problématiques qu'ils rencontraient. Ils m'ont demandé des conseils. C'était rare, mais c'est arrivé. Et à chaque fois, j'ai eu l'impression d'être très gênée, de ne pas savoir comment leur répondre, de ne pas savoir quoi leur dire. Et donc, je me suis dit que c'était probablement très important aussi que j'ai un œil professionnel là-dessus et que je sache avoir une attitude thérapeutique par rapport à leurs questions. Donc là-dessus, j'ai enchaîné avec le diplôme. C'est là où j'ai rencontré Mireille. Donc, qui d'entre vous a déjà parlé de sexualité avec les patients qu'ils rencontrent en consultation? Les chiffres disent qu'à peu près, sur une étude relativement ancienne de 84, mais je pense qu'on est à peu près dans cet ordre-là, il y aurait 10% des psychiatres qui évoqueraient la question de la sexualité avec leurs patients, donc 1 sur 10. Par contre, 2/3 des psychiatres n'évoqueraient jamais ce sujet avec les patients, alors que comme on le verra tout à l'heure, il y a énormément de plaintes, en tout cas même si elles ne sont pas verbalisées, mais il y a quand même des gros problèmes à ce niveau-là. Deux types de conséquences de cette réticence, ou en tout cas de ce désintérêt des psychiatres à parler de la sexualité. J'entends aborder la question de la sexualité fonctionnelle, comme disait Mireille, hein, la sexualité pratique, pragmatique. Les conséquences, c'est qu'on sous-estime le taux de dysfonction sexuelle chez nos patients, on verra après, et qu'on méconnaît la possibilité d'une sexualité à risque chez nos patients, je le développerai aussi, et que donc on n'a pas l'action préventive qu'on devrait avoir par rapport à cette situation-là. Alors, tout avait pourtant si bien commencé, c'est une phrase à prendre peut-être au second degré. Psychopathia sexualis, c'est le premier ouvrage qui introduit la sexualité dans le domaine du juridique. Hein, c'est un recueil un petit peu de ce qu'on appelait les perversions sexuelles. Et l'idée générale de tout ça, donc il faut voir que c'est quand même 1886, écrit par un psychiatre, von Krafft-Ebing, que les excès sexuels étaient pourvoyeurs de maladies mentales. Ensuite, Mireille en a longuement parlé, la psychanalyse avec tout ce qu'elle a pu apporter, qui parle de sexualité, mais au sens symbolique du développement psychosexuel, mais qui, encore une fois, ne parle pas de la sexualité pratique. Ensuite, un article de 1972 qui était paru dans l'American Journal of Psychiatry, qui, à l'époque, disait que le fonctionnement sexuel, ou en tout cas les comportements sexuels, pouvaient contribuer à des désordres psychiatriques. Donc, on voit bien avec cette idée qui est encore une fois très récente, hein, c'est de 72, que finalement, si on pense que le comportement sexuel peut induire des troubles psychiatriques, en parler, ça devient compliqué. Et pourtant, à l'heure actuelle, on en voit de partout de la sexualité. Cet été, moi, j'ai été frappée. Tous les journaux qu'on voyait, il y avait des trucs de sexologie de partout. Donc, c'est un sujet, Mireille en parlait aussi, hein, c'est-à-dire que ça a été tabou pendant longtemps, et puis ensuite, ça s'est démocratisé. Puis maintenant, on a une surenchère de la question de la sexualité. Donc, tout le monde en parle, en tout cas, pas les psychiatres. Alors, comment comprendre ce silence? Il y a possiblement l'héritage, encore une fois, de la psychanalyse. On peut penser aussi que la retenue des patients est un frein. Il y a un étudiant du DU de sexologie de Marseille qui a fait un mémoire il y a peu de temps et sur le point de vue des psychiatres sur la sexualité de leurs patients, et beaucoup disaient, mais si les patients ne m'en parlent pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc vu qu'ils ne m'en parlent pas, moi je ne vais pas leur en parler non plus. En fait, il y a plusieurs études qui montrent qu'il n'y a que 10% des patients qui présentent une dysfonction sexuelle, c'est-à-dire une perturbation dans le fonctionnement sexuel, qui s'en plaindrait spontanément. Ce que disent les patients, pareil, hein, les raisons qui ont été invoquées, c'est la culpabilité par rapport aux préoccupations sexuelles, hein, comme si c'était une faute, quelque chose entre ne pas avoir honte d'avoir des préoccupations sexuelles, le caractère intime du sujet, bien sûr, la peur aussi de la réaction du praticien. Et moi, je vois des fois en consultation, parce que du coup, je fais des consultations psy, des consultations sexo, et puisque mes collègues savent que je suis sexo et psychiatre, ils m'envoient un petit peu des patients, et certains me disent, mais moi quand j'évoque ça avec mon psychiatre, je parle de patients psy, hein, pas les patients sexo purs, me disent, mais mon psychiatre, ils deviennent tout rouges, il est plus angoissé que moi à l'idée de parler de tout ça, et vraiment je préfère lui éviter un petit peu ce sentiment d'être gêné, et du coup je lui en parle pas. Alors, comment comprendre ce silence des psychiatres vis-à-vis de la sexualité, encore une fois fonctionnelle ? La croyance que les patients, et là, j'entends plutôt les patients psychotiques notamment, n'auraient pas de sexualité, donc des patients un petit peu asexués. C'est aussi la crainte des conséquences, mais qui peuvent souvent être fantasmées. Alors, toujours les raisons hein, qui sont invoquées par les psychiatres, c'est si je parle de sexualité, est-ce que mon patient il va pas décompenser ? Et ça, encore une fois, c'est surtout pour les patients psychotiques, mais on voit que ça renvoie aussi à l'article dont je vous ai parlé tout à l'heure qui disait qu'effectivement, sexualité et troubles psy, tout ça, c'était un petit peu lié. L'autre idée, c'est parler de sexualité, ça pourrait entraîner des comportements sexuels aberrants. Ah, c'est pareil, c'est le fantasme de quelle sexualité ont nos patients en unité et qu'est-ce qu'on ne va pas induire en parlant de ce sujet intime. Pour d'autres, le dialogue sur ce sujet serait perçu, pourrait être perçu en tout cas comme un encouragement, c'est-à-dire en parler, ça veut dire permettre et encourager le patient à avoir des comportements sexuels qui, encore une fois, sont fantasmés un peu comme aberrants. Dans ce qui revient aussi très souvent, c'est la peur d'induire une réticence vis-à-vis du traitement. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est sûr que quelle que soit la cause de la dysfonction sexuelle, si le patient a le sentiment que peut-être c'est lié au traitement, que ça le soit en réalité ou non, il peut y avoir cette réticence. Alors, d'autres psychiatres parlent de boîte de Pandore en disant « Mais en consultation, moi j'ai déjà un temps de parole très limité, si en plus on commence à parler de ça, c'est la boîte de Pandore et moi je ne vais pas m'en sortir, j'ai un temps de consultation qui est limité, j'ai des patients qui attendent dans la salle d'attente et je ne peux pas ouvrir ça, si je commence à en parler, je suis débordée. » Ensuite, il y a aussi le fait de pouvoir peut-être cacher sa pudeur derrière celle du patient. Quand on dit « le patient m'en parle pas, j'en parle pas », et un petit peu sous couvert de respecter l'intimité de l'autre, dans certains cas, j'entends, ça peut être aussi la pudeur du praticien, et encore une fois, tous ces propres tabous qui ressortent à cette occasion-là. Après, c'est justement la question de ne pas être à l'aise avec sa propre sexualité, etc. Et puis, très souvent, moi, mes collègues me disent « mais de toute façon, à quoi bon ?» Et là, c'est aussi particulièrement vrai pour les patients schizophrènes, à quoi bon parler de sexualité ? Parce que s'il a une dysfonction, c'est soit la maladie, c'est soit les traitements. Or, il sera toujours malade, il aura toujours des traitements. Donc, de toute façon, vu que je ne peux rien faire pour sa dysfonction sexuelle, pourquoi aller parler d'un sujet pour lequel moi, je ne peux rien ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on reverra aussi un petit peu plus tard. Pourtant, la pratique, je vais le développer, les données de la littérature montrent quand même l'importance de prendre en compte la sexualité en pratique psychiatrique. Alors, je vais évoquer deux axes, les dysfonctions sexuelles et la sexualité à risque en milieu psychiatrique, qui touche un autre type de population. Hein, c'est-à-dire qu'en milieu psychiatrique, j'entends un petit peu l'institution des patients peut-être un peu plus lourds, peut-être une surreprésentation des patients psychotiques. Alors, très brièvement, la définition d'une dysfonction sexuelle, déjà, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. C'est où commence la pathologie quand on parle de dysfonction sexuelle. Ça renverrait à une norme, à une définition normative de ce que ce serait. Et là, je pense que c'est une limite aussi de nos définitions actuelles. Pour faire simple et peut-être un peu réducteur, on retrouve les définitions DSM et SIMDIS. En gros, on va parler des troubles du désir sexuel, les troubles de l'excitation sexuelle, c'est-à-dire les troubles de l'érection chez l'homme, le trouble de la lubrification chez la femme, les troubles de l'orgasme, et les dyspareunies, les vaginismes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit pas, on ne peut pas parler de dysfonction sexuelle s'il y a une personne qui a un trouble du désir, mais qui n'a aucune souffrance liée à ça. Encore une fois, il ne s'agit pas de pathologiser quelque chose. La dysfonction sexuelle, la définition, tient compte du contexte environnemental du sujet et surtout des répercussions du symptôme. C'est quelqu'un qui a un symptôme, mais qui s'en fiche, je veux dire, on ne va pas dire que c'est une dysfonction sexuelle au sens où il n'y a pas d'indication à prendre en charge quelque chose qui n'induit pas de souffrance. Alors, pour commencer, la dysfonction sexuelle qui masque un trouble psychiatrique. Dans le syndrome dépressif, on le verra tout à l'heure, il y a une étude qui avait été menée par Mireille, qui montrait que chez les patients qui souffrent de dépression, il y en a plus de la moitié qui, non traités, souffrent d'une dysfonction sexuelle. Alors, c'est quelque chose, donc 40 à 60% des patients déprimés souffrent de dysfonction sexuelle, et le symptôme un peu clé, c'est effectivement le trouble du désir. Alors, il faut aussi. Moi, j'ai des patients qui viennent en consultation de sexologie qui viennent avec un simple trouble du désir, c'est-à-dire ils viennent en consultation pas psy du tout. Et finalement, qu'est-ce qu'on retrouve à l'évaluation derrière ce trouble du désir ? Ben, c'est un syndrome dépressif qui est un petit peu masqué, qui est un petit peu atypique. Souvent, derrière les motifs de consultation, on retrouve quand même une origine qui, très souvent, est psychique, psychologique, psychiatrique. Chez les patients déprimés, il faut faire très attention aux allégations de dysfonction sexuelle. C'est-à-dire des patients qui sont tellement dans l'autodévalorisation, dans le pessimisme, vont se plaindre d'un symptôme qui, en fait, quand on voit la partenaire, n'existe pas, hein, mais existe dans la vision erronée qu'a le sujet de sa sexualité. Dans les troubles anxieux, on retrouve aussi beaucoup de dysfonction sexuelle. La principale, c'est la dysfonction érectile. On peut avoir des préoccupations sexuelles comme élément délirant. Alors moi, pareil, j'ai des patients des fois qui arrivent, et notamment, ça c'est quelque chose que j'ai rencontré au moins 2-3 fois, des patients schizophrènes qui me sont adressés en me disant le patient est stabilisé, il n'y a pas de problème, on peut aborder la question de la sexualité avec lui parce qu'encore une fois, il est stabilisé, et il se plaint, il a des préoccupations. Donc le patient vient, et quelque chose qui revient très souvent, c'est la thématique de l'homosexualité, avec des patients qui évoquent leur crainte d'être homosexuel, et en fait, avec l'interrogatoire, et parce que je suis sexologue et psychiatre, finalement, cette préoccupation n'est pas du tout une dysfonction sexuelle ou quoi que ce soit. C'est vraiment un élément délirant qui est là, qui est enquisté, qui persiste et qui peut faire dire que le patient, certes, est peut-être stabilisé au sens où il n'a pas de symptomatologie psychiatrique décompensée, mais qu'en tout cas, il y a quand même un processus délirant qui est en cours et qui traite de cette thématique sexuelle. Sachez qu'il n'y a aucun trouble, enfin, tous les troubles psychiatriques peuvent induire toutes les dysfonctions sexuelles et il n'y a aucune spécificité. Donc là, c'était un petit peu la plainte sexuelle comme valeur sémiologique. Alors, il y a aussi le symptôme iatrogénique. Je vous parlais tout à l'heure de l'étude de Mireille sur une étude bien menée de 4500 patients, ce qui n'est pas rien. Là encore, on retrouve la notion des faibles plaintes spontanées, puisque seulement 35% des patients qui présentaient une dysfonction sexuelle s'en plaignaient spontanément, alors qu'on retrouve un chiffre de 69% de dysfonction sexuelle après l'épissage des médecins. Chez les patients non traités, déprimés, 65% de dysfonction sexuelle, 71% chez les patients traités, la différence était significative. Donc on voit bien qu'il y a le processus psychiatrique qui induit des dysfonctions sexuelles, mais le traitement en rajoute. Donc vous allez me dire, ça ne sert à rien de traiter la dépression pour avoir moins de troubles sexuels. Ça, on verra ça tout à l'heure. Les neurolytiques et les antipsychotiques, pareil, 40 à 70% des patients qui sont sous neuroleptiques ont une dysfonction sexuelle. En moyenne, on considère que c'est de l'ordre de 1 patient sur 2. Il faut savoir qu'il y a une variabilité intermoléculaire, c'est-à-dire qu'il y a des neuroleptiques qui sont plus ou moins iatrogène sur le plan de la sexualité, mais que ça, il y a une variabilité aussi interindividuelle qui fait que c'est un peu difficile de prévoir pour quel patient ce sera mieux. On a eu peu d'études sur les patients schizophrènes traités versus patients schizophrènes non traités, enfin non traités versus traités, par souci éthique, enfin, c'est compliqué d'avoir des schizophrènes non traités. Ceci dit, il y a quand même quelques échantillons qui montrent que le traitement en lui-même, effectivement, a des effets secondaires sexuels. Les thymorégulateurs, c'est à peu près pareil. J'insiste pas sur cette question-là, je pourrais y rester 3 heures, mais je pense qu'il faut parler de quelque chose de beaucoup plus vaste. Juste une slide là-dessus, parce que c'est important, la plainte sexuelle comme symptôme sentinelle de la coronaropathie, ça c'est quelque chose qui existe en sexologie, sur lequel on est beaucoup informé, c'est-à-dire, et c'est a fortiori vrai chez nos patients qui présentent quand même beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire, puisqu'on sait que la morbidité, la mortalité chez nos patients institutionnalisés, souvent psychotiques, est 2 fois supérieure à celle de la population générale. Donc chez nos patients en surpoids, tabagiques, qui ont du cholestérol, qui ont du diabète, qui sont sédentaires, le risque de maladie cardiovasculaire est très important. Et on sait à l'heure actuelle que la dysfonction érectile est un symptôme qui intervient avant la coronaropathie. Donc, c'est quand même intéressant de savoir qu'un sujet qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, qui va se plaindre d'une dysfonction érectile, peut-être ce serait bon de lui proposer aussi un dépistage de ce qu'il peut avoir au niveau cardiaque. La sexualité comme addiction, c'est un motif de consultation qui est croissant. Il y a deux types de présentations qui sont assez prépondérants. C'est les rapports sexuels un petit peu compulsifs et c'est aussi beaucoup l'addiction à la cybersexualité. C'est classifié dans les addictions comportementales et en général, le type de prise en charge, c'est les mêmes que les addictions comportementales. Donc, quel que soit le sens de cette dysfonction sexuelle, encore une fois, la dysfonction sexuelle, symptôme psychiatrique, iatrogénique, quoi que ce soit, elle impacte négativement sur la qualité de vie. Or, on sait à l'heure actuelle que c'est un marqueur de la qualité des soins. Dans les études, ce qui est montré, c'est que finalement, ça impacte autant négativement sur la qualité de vie que les effets extrapyramidaux et la prise de poids des traitements. Ça impacte aussi négativement sur la compliance au traitement. Quand les patients vous disent « j'ai arrêté le traitement, pourquoi est-ce que j'ai arrêté le traitement ?» c'est quand même régulièrement que moi j'entends « le traitement, il me donne des soucis, dans ma relation avec l'autre, ça ne va pas bien, parce qu'au niveau sexuel, ça ne va pas bien, donc je pense que c'est le traitement, donc j'arrête le traitement. » Ça, c'est une donnée qui est importante. Alors, ce dont on parle encore moins à propos de la sexualité en milieu psychiatrique, c'est tout d'abord les IST, enfin, les infections sexuellement transmissibles. De quoi on nous parle finalement en milieu psychiatrique ? Moi, les seuls rapports avec la sexualité que j'ai eus en milieu psychiatrique, c'était les infirmiers qui m'appelaient et qui me disaient « Audrey, ce serait bien que tu viennes parce qu'on a retrouvé monsieur Untel dans le lit de madame Untel et il faudrait le recadrer. » Bon, alors je vais aller recadrer mon patient, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire ? Donc, en milieu hospitalier, c'est cette question du règlement qui interdit d'avoir des relations sexuelles ou des flirts entre patients dans les unités. Donc, moi, au niveau de l'institution, c'est vraiment le rapport que j'ai eu à la sexualité. En pratique, de toute façon, c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça se passe pas. Et que la réalité, c'est qu'il y a une sexualité dans les milieux psychiatriques, mais plutôt que d'avoir leur rapport ou dans les chambres, ils vont aller derrière le bâtiment. Mais c'est une réalité, même encore une fois, si on ne la voit pas. Donc, et la réalité, c'est les infections sexuellement transmissibles. On sait qu'il y a une faible utilisation des moyens de protection, des préservatifs. Il y a des partenaires multiples avec une sexualité très souvent utilitaire. Tiens, je n'ai pas de paquet de cigarettes. Mais je te fais une pipe et puis tu me donnes un paquet de cigarettes. J'ai besoin d'un café, mais je vais t'offrir des faveurs sexuelles et puis tu vas m'offrir un café. C'est la sexualité aussi qu'on voit, encore une fois, dans les services. Enfin, qu'on ne voit pas, mais qui existe et dont les patients parlent quand même de temps en temps. C'est la question de la prostitution aussi. Il y a une étude de Cournose qui montre que chez 59 patients hospitalisés, donc quand même sur représentation des patients psychotiques, il y avait 50% des patients qui avaient vécu ou qui vivaient une sexualité utilitaire de type que je vous ai décrit à l'instant. Pareil, le risque de contracter le HIV serait significativement supérieur en population schizophrène par rapport à population générale et on constaterait ces dernières années un taux de contamination qui serait croissant. Ce dont on ne parle pas non plus et qui est important, c'est la problématique de la reproduction. Avec l'arrivée des antipsychotiques atypiques qui induisent moins de perturbations au niveau des cycles menstruels que les neuroleptiques conventionnels, on a vu le taux de grossesse non planifiée qui a explosé parce que les patientes non plus n'utilisent que faiblement des mesures de contraception. Et pareil, là, on a des études qui montrent qu'on a significativement plus de grossesses non désirées et d'IVG en population vivant en milieu psychiatrique, ou en tout cas étant régulièrement hospitalisé, qu'en population générale. Alors là, j'ai vu une étude qui était assez intéressante de Bellon de 2009, qui dit que justement la reproduction, c'est l'une des préoccupations majeures des familles des patients psychotiques, et que 79% des familles souhaiteraient un contrôle de la fécondité de leur enfant. Donc ça, c'était sur 109 familles interrogées, et ça pose question. On en parlera aussi tout à l'heure. On a aussi les aspects médico-légaux dans la sexualité en milieu psychiatrique. Alors, pareil, il y a des psychiatres qui me disent « mais moi, j'en parle pas parce qu'on ne sait jamais, les patients schizophrènes sont quand même des patients qui sont violents. Et donc, ils risquent de passer à l'acte, on ne sait jamais, d'être agresseurs sexuels. Ce que montre la littérature, c'est que les patients schizophrènes, en l'occurrence, ne sont pas plus agresseurs sexuels que la population générale. Par contre, toutes les études sur le sujet montrent que les patients qui souffrent de troubles mentaux auraient 5 à 10 fois plus de risques d'être victimes de violences sexuelles que la population générale. Et que l'hospitalisation serait aussi un facteur de risque supplémentaire à l'agression sexuelle. Alors, moi, je n'ai pas l'impression d'être une vieille psychiatre, mais quand même, dans ma pratique, je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai vu des allégations d'agression sexuelle, dont pour certaines, après, c'est à la justice de le dire, mais certaines qui, même si juridiquement, elles ne sont pas allées au bout des plaintes, par la suite, c'était pas que des allégations. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut penser. Alors, peut-être vous me direz, mais moi, de toute façon, je ne travaillerai pas en unité psychiatrique, je vais aller m'installer. Vous allez vous installer et vous avez de fortes chances dans votre carrière d'être confronté à des patients qui vont venir vous voir et qui vont vous dire, bonjour, je sors de prison, j'ai une injonction de soins, et donc je vous ai choisi comme psychiatre traitant dans le cadre de mon injonction de soins. Parce que finalement, le psychiatre traitant est laissé à l'appréciation et au libre choix du patient. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Donc l'injonction de soins, c'est quoi? Elle a été introduite par la loi du 17 juin 1998. Elle a pour objectif de prévenir la récidive des infractions à caractère sexuel en traitant les auteurs de violences sexuelles. Donc il y a plusieurs types de difficultés qu'il faut connaître. C'est un suivi qui est souvent envisagé dans une optique utilitaire de la part du patient. Il n'y a pas forcément de surreprésentation des comorbidités psychiatriques par rapport à la population générale. Et puis aussi, c'est un glissement du champ de la justice vers le domaine sanitaire et ça pose question. Donc c'est quand même un champ, encore une fois, auquel vous risquez d'être confronté, qui exige un minimum de connaissances théoriques et qui exige de vous de pouvoir gérer aussi le contre-transfert quand on est en face de soi des patients pédophiles ou agresseurs sexuels. C'est aussi important de connaître un petit peu la sexologie parce que il y a la question de la place des traitements médicamenteux dans la prise en charge de ces traitements. Alors juste, pour petite anecdote, moi j'ai un confrère très compétent par ailleurs, mais qui m'a adressé un patient qu'il suit en injonction de soins. Et donc, pour après 10 à 15 ans de peine, pour des actes pédophiles. Et donc le psychiatre me dit, écoute, j'ai un souci parce que ce patient, il a des troubles de l'érection alors qu'il essaye d'avoir des rapports sexuels avec des femmes. Et donc j'aimerais bien que tu l'explores à ce niveau-là. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel on est toujours très prudent. Et donc on en parle avec plusieurs confrères qui sont confrontés à ces questions-là. Donc moi je me dis c'est quand même embêtant d'aller prendre en charge une dysfonction érectile chez un auteur de violence sexuelle. Et puis il y a d'autres confrères qui me disent, et la réflexion est ouverte, hein, oui mais ce patient il veut avoir une sexualité avec des femmes adultes et peut-être que si on l'aide pas à cette réinsertion entre guillemets, ça pose aussi question. Enfin, donc je reçois le patient qui a des dysfonctions érectiles et c'est là où finalement avoir des notions un petit peu de sexologie c'est important et c'est aussi pour ça que c'est important de savoir parler de la sexualité pratique, pragmatique de ce qui se passe en réalité et de ne pas avoir peur de leur en parler. Donc il m'explique pareil, voilà, j'essaie avec des prostituées d'avoir des relations avec des femmes, des adultes et puis ça ne fonctionne pas. Et donc, bon, il m'en fait des tartines sur cet angle-là. Et donc, et c'est aussi de savoir pouvoir parler des fantasmes. Et donc, de savoir un petit peu quels sont ces fantasmes, comment il vit sa sexualité autrement qu'avec les prostituées. Et finalement, de fil en aiguille, en lui posant des questions que je n'aurais jamais osé poser avant, même s'il faut toujours avoir un vocabulaire très adapté à qui on est en face de soi, ce qu'il me racontait, c'est qu'il n'avait aucun trouble de l'érection. C'est-à-dire que quand il fantasmait sur les petits garçons, nickel, aucun souci. Et que finalement, quand il est confronté à une réalité ou à une partenaire qui ne correspond pas à ses fantasmes, ben évidemment, ça ne marche pas. Donc, encore une fois, je dis ce collègue psychiatre très compétent, mais c'était juste la question d'une nouvelle optique pour essayer d'explorer cette plainte de ce patient-là. Donc ça, c'est des choses, des données qui sont quand même importantes à pouvoir avoir en tête et à pouvoir discuter avec le patient. Et alors, dans les psychiatres, il y a ceux qui n'en parlent pas, mais par contre, qui passent à l'acte. Donc là, il y a quand même peu d'études sur la question, mais aux États-Unis, il semblerait qu'il y ait environ 200 médecins chaque année qui soient rayés de leur instance ordinale pour des agressions sexuelles sur leurs patientes. Pareil, il y a une étude de 1998 sur ce thème qui montre que les psychiatres, les pédopsychiatres et les gynécos seraient les spécialités les plus concernées comme auteurs de violences sexuelles. Et alors, pareil, il y a les psychiatres qui, sans avoir le sentiment d'agresser sexuellement leurs patientes, vont avoir des relations sexuelles avec leurs patients. Je mets patients-patientes, hein, parce qu'il y a aussi des femmes thérapeutes qui couchent avec leurs patients. Donc ça, ce serait à peu près, mais c'est une vieille étude, hein, 6%, mais ça donne un ordre d'idée. Là, la question, c'est que si le patient, la patiente, après, va poser plainte, porter plainte, et que même si elle semblait être ou il semblait être consentant, on peut toujours dire c'est une personne vulnérable qui présente des troubles psychiatriques. Il y a une relation d'emprise de la part du thérapeute. Et même si vous aviez le sentiment qu'il y avait un consentement, était-il éclairé ou non? Et alors là, vous êtes bon pour le jugement, pour agression sexuelle, voire viol. Donc là, on va voir un petit peu les pistes de réflexion concernant l'attitude à adopter devant tout ça. C'est un petit peu théorique, avec deux axes, l'évaluation clinique et l'approche un petit peu thérapeutique. La première question, c'est, bon, très bien, il faut leur en parler de la sexualité aux patients, mais est-ce que, finalement, eux-mêmes sont demandeurs? C'est un peu la question aussi. Donc, il semblerait que oui, que les patients se disent majoritairement prêts à parler de leur intimité, et même, il y aurait une certaine demande, et plusieurs études retrouvent le fait que ce serait le domaine de prise en charge dans lesquels les psychiatres seraient peut-être, encore une fois, le moins compétents, ou en tout cas, les besoins des patients seraient les moins satisfaits. Et en tout cas, dans des études, le taux de patients qui refusent d'aborder la question, à respecter bien évidemment, serait de l'ordre de 6 à 10% des patients. Donc, pour les psychiatres traitants, encore une fois, l'importance d'entamer un dialogue vis-à-vis de la sexualité, je pense que j'en ai un petit peu parlé, mais c'est aussi le devoir d'information et de dépistage actif. C'est-à-dire, si on attend que le patient nous en parle des dysfonctions sexuelles, vous pouvez toujours attendre. Donc, le dépistage actif, c'est aussi pouvoir dire au patient, est-ce que vous avez des soucis partout? On leur demande tout le temps, est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce qu'il n'y a pas de tremblement? La sexualité, jamais. Donc, ça pourrait être pas mal de dépister activement les effets secondaires sexuels, ou en tout cas, je pense que c'est mal tourné, ma phrase, les dysfonctions sexuelles, parce que même si on en dépiste, on le verra, elles ne sont pas forcément d'origine iatrogène, et c'est même un écueil dans lequel je tombe aussi, de dire que c'est un effet secondaire sexuel, alors qu'on n'a pas fait l'évaluation dont on va parler après. C'est important pour la qualité de vie, les risques de rupture médicamenteuse, on en a parlé. L'information sur les IST, la contraception, les violences sexuelles. Et pareil, plusieurs publications dans ce sens, aborder la question de la sexualité de façon adaptée, j'entends, avec un vocabulaire adapté, parce que c'est pareil, moi, avec des patients, des fois, ils me disent « Docteur, ça ne marche pas, la puissance, elle n'y est pas. » La puissance, elle n'y est pas. Donc, il va falloir décrypter aussi un petit peu ce que veut dire le patient. Donc, il faut toujours employer. Moi, des fois, je me dis, mais s'il y a quelqu'un qui passe devant mon bureau, c'est mal insonorisé, ils vont se demander ce qui se passe dans le bureau, parce que des fois, ben, faut être quand même très... très pragmatique, encore une fois, des fois un peu cru, parce que sinon, les patients ne comprennent pas forcément ce qu'on est en train de leur dire. Donc, avec un vocabulaire adapté, chez des patients, encore une fois, stabilisés, n'entraîne pas de décompensation psychiatrique. Donc, en cas de dépistage de la part du thérapeute, trois cas de figure, pas dysfonction sexuelle, très bien. Une dysfonction sexuelle, ou en tout cas un symptôme sexuel, mais pas de demande de prise en charge, on les laisse tranquilles. Et encore une fois, il ne faut pas pathologiser. Et par contre, s'il y a demande de prise en charge, deux axes vont être importants. L'importance de l'évaluation clinique et l'importance de la prise en charge en réseau. Alors, quand il y a une dysfonction sexuelle, la prise en charge, rassurez-vous, elle ne va pas vous incomber entièrement. Il y a des psychiatres qui me disent « mais moi, je suis incapable de prendre ça en charge ». Mais ce n'est pas ce qu'on demande au psychiatre. Ce qu'on lui demande, c'est peut-être de repérer quelque chose et de pouvoir travailler en collaboration avec des gens dont c'est la compétence pour essayer d'aider le patient. Donc, dans cette prise en charge coordonnées en réseau, il va y avoir le psychiatre, le sexologue, il peut y avoir aussi le médecin généraliste, on va le revoir. La première étape, ce sera tout d'abord d'évaluer la pertinence de la demande et de la prise en charge sexologique. Moi, des fois, j'ai des patients qui viennent me voir et qui ont des plaintes sur un symptôme, mais des plaintes qui ne relèvent pas du symptôme. Où, en fait, ils vont me dire, voilà, Moi, ça m'est arrivé une fois, un patient qui me dit, docteur, j'ai un problème d'érection. Enfin, il ne me le dit pas comme ça, mais encore la puissance, etc. Et au final, quand on rentre un petit peu dans les détails, il me dit qu'il fait l'amour à sa partenaire au moins 2 fois par jour. Et il me dit, oui, mais j'arrive pas à faire plus que 2-3 fois par jour, quoi. Et là, il me dit, mais c'est forcément que j'ai un problème, parce que moi, je vois à la télé, dans les films porno que je regarde, ou quand je suis au bar et que les hommes, ils parlent de sexualité entre eux, il y en a, docteur, ils peuvent aller jusqu'à 8 fois par jour. Donc moi, si j'y arrive pas, c'est que j'ai un problème. Donc, vous voyez bien que là, si, comme quand j'étais jeune interne, je m'étais arrêtée à, docteur, j'ai une dysfonction érectile, surtout, moi, je veux pas en parler, mais que finalement, pouvoir en parler, c'est juste lui dire, mais vous savez, vous faites l'amour 2-3 fois à votre femme par jour. Et c'est très bien, et c'est une majorité d'hommes n'arrivent pas à faire ça. Santé, ouais. Et du coup, pour le coup, c'est juste une question de fausse croyance. Hein, c'est juste une question de comment il perçoit la réalité de la sexualité. Et pour le coup, il n'y était pas du tout. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Et si on savait que ça peut être aussi simple de traiter une plainte sexologique que juste d'informer les gens, peut-être on oserait davantage évoquer la question avec eux. Donc c'est pour ça que c'est important d'évaluer la pertinence de la demande. En tout cas, il y avait une demande, elle était pertinente, c'est pas la question. Mais pour le coup, il n'y a pas besoin de faire une prise en charge sexologique. Hein. Donc première question, est-ce que le patient est stabilisé ou non ? Moi, des fois, je vois des patients schizophrènes arriver en consultation, il n'est pas question d'aborder quoi que ce soit avec eux. C'est-à-dire, ils arrivent délirants, on renvoie, moi je renvoie au psychiatre et je dis non mais là moi j'y touche pas quoi, enfin j'y touche pas. Surtout moi je lui parle de rien quoi. Hein. On le stabilise, moi je veux bien le revoir après, mais pour l'instant ce qui prime, ce qui est prioritaire, c'est la prise en charge de la schizophrénie. Donc ça c'est quand même un point primordial. Ne pas pathologiser, on en a parlé. La réalité symptomatique ou une demande en lien avec des fausses croyances, j'en ai parlé. Après c'est aussi toute la question du contexte affectif. Des possibilités de changement, pareil, moi des fois je vois des patients, ils sont institutionnalisés depuis 30 ans, à l'hôpital, ils font 120 kilos, ils fument 3 paquets de cigarettes par jour, ils font pas de sport, et ils arrivent, ils disent « Bonjour docteur, ça fait 20 ans que je bande pas, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi ?» Et quand on leur dit « Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à faire aussi pour ça ?» Rien. Donc il est, enfin, je veux dire, là les possibilités de changement elles sont nulles. Et je veux dire, moi je leur dis les choses assez franchement. Hein, écoutez, déjà une érection, pourquoi faire ? Bon, après, il fait bien ce qu'il veut avec, dans les respects de la loi. Mais possibilité de changement, nulle. Donc, bon. Parfois, ça peut être aussi accompagné d'une sexualité épanouie. Et pareil, ce type de patient, il peut vous dire, mais moi, j'aimerais retrouver une partenaire avec laquelle j'aurais des rapports épanouis dans la nature 2 fois par jour. Les trucs qui ne sont pas dans la réalité non plus, quoi. Et toujours, toujours, l'information et la prévention des IST, de la contraception, les agressions sexuelles. Donc, la deuxième étape, ce sera l'évaluation sexologique. Là encore, vous avez fait votre boulot, vous avez dépisté une dysfonction sexuelle, vous pouvez très bien, d'ores et déjà, envoyer le patient à un sexologue, si vous ne vous sentez pas, de faire l'évaluation sexologique, qui nécessite quand même des connaissances un petit peu particulières. Donc, là, c'est pas forcément... Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut savoir faire tout ça. Donc, on va faire... une anamnèse, les antécédents, psy, organique, le traitement, le contexte de vie, les événements de vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à l'heure actuelle ? Est-ce qu'il y a eu des événements de stress ? Est-ce que... Donc, tout ce qui fait qu'il peut y avoir eu un souci sexuel qui émane à ce moment-là. On va faire l'anamnèse du fonctionnement sexuel avant la maladie, entre le début de la maladie et le traitement, après le traitement. Voilà. En général, qu'est-ce qu'on retrouve chez nos patients ? La persistance du trouble psychiatrique dans lequel s'inscrit le symptôme. On a vu tout à l'heure l'exemple des troubles du désir dans la dépression. Auquel cas, on va dire, c'est un symptôme de la dépression. Il faut aussi que la dépression, elle aille mieux pour que vous retrouviez le désir sexuel. On ne va pas prendre en charge symptomatiquement le symptôme, forcément. Un événement de vie stressant, c'est-à-dire que si la personne, elle a été licenciée, qu'elle vient de perdre sa femme ou son mari et qu'il y a eu un décès dans la famille, ça marche moins bien. On peut retrouver une pathologie organique, on peut retrouver des conjugopathies, c'est-à-dire des crises de couple, hein, puisqu'encore une fois, la dysfonction sexuelle, ça a un sens, et ça, c'est important. Un manque de connaissances et d'habiletés, un facteur iatrogène, avec tous les critères d'imputabilité qu'on peut retrouver, des abus de substances. Retenez que l'origine d'une dysfonction sexuelle n'est que rarement monofactorielle, que ça offre autant de pistes thérapeutiques avant d'incriminer le traitement. Pareil, souvent, on ne veut pas parler de tout ça parce qu'on se dit s'il va falloir que je change le traitement alors que le patient a été difficilement stabilisé. Je ne mets pas les pieds sur ce terrain un petit peu glissant. Il faut savoir qu'avant de changer de traitement, il y a toutes les pistes thérapeutiques que je viens de vous exposer là. Hein, avoir une dysfonction sexuelle, ça ne veut pas dire je switch forcément le traitement. Troisième étape, en fonction de l'évaluation, de ce que vous aurez mis en évidence comme facteur explicatif, on fait une proposition de prise en charge. C'est un diagramme qui est un peu insupportable. Je conclue, j'en ai pour pas longtemps. Donc, on va faire une prise en charge qui sera adaptée à ce qu'on aura mis en évidence. Si c'est un problème organique, on va traiter le problème organique. Il manque les flèches, là. Si c'est des fausses croyances, un manque de connaissances, on va aller vers les informations appropriées. Si c'est des comorbidités psy autres ou une psy décompensée, on va traiter ça. Le traitement psychotrope, on va aller, mais ça encore, ce n'est pas forcément du première intention, vers un traitement qui sera aussi efficace avec une bonne tolérance au niveau sexuel parce qu'on sait quand même qu'il y a une variabilité intermoléculaire. Si c'est un problème de contexte relationnel, affectif, on peut proposer une prise en charge de couple. Un événement de vie ou une addiction, on fait une prise en charge spécialisée. La dernière ligne, la place des IPDE5 en population psy, j'y viens en deux mots. Toutes les études qui ont été faites, bien menées, montrent que les IPDE5, j'ai pas le droit de dire, mais tous les IPDE5, hein, vous reconnaissez la pilule ou les autres, ont montré leur efficacité, leur bonne tolérance contre les effets secondaires sexuels des traitements psychotropes, quels qu'ils soient, les antidépresseurs, les antipsychotiques, etc. Le problème, c'est le prix, notamment avec nos patients en psychiatrie, et à utiliser toujours avec prudence. Il ne s'agit pas de les prescrire larga manu, mais en fonction aussi du contexte affectif, du couple, et après, prise en charge des autres facteurs pourvoyeurs de dysfonction sexuelle. En quelques mots aussi, la sexualité à risque, l'importance de la prévention, encore une fois, beaucoup de fausses croyances. Moi, une fois, j'ai une patiente qui je lui parle de la contraception et de moyens de protection contre le sida. Elle me dit, mais docteur, moi, j'ai aucun risque. Hein. Après avoir fait l'amour, je prends ma douche. Hein. Le HIV, la grossesse. Non, mais je vous dis, je prends ma douche. Moi, j'ai aucun risque d'attraper le moindre microbe. Hein. Donc, tout ça pour illustrer le fait qu'il y a aussi une méconnaissance très importante de comment, c'est basique, mais de comment on tombe enceinte et de comment on chope une IST. Hein, donc voilà, prendre sa douche, ça n'a jamais empêché personne d'attraper une IST ni de tomber enceinte. Donc l'importance de la prévention, quelle modalité? Déjà, sensibiliser l'équipe médicale et paramédicale, c'est-à-dire quand une équipe va nous dire qu'il faut recadrer le patient parce qu'il a été retrouvé dans le lit d'un tel, avant de se dire qu'il faut faire appliquer le règlement, peut-être se dire qu'il a couché avec une telle. De toute façon, il le fera. Donc, plutôt prévenir et de se préoccuper de est-ce qu'au moins il se protège, est-ce qu'au moins ils font gaffe. Et hein, c'est un peu les problématiques qu'on a vues ce matin avec l'addiction. Donc, c'est la question de l'information. Est-ce que ça doit se faire en consultation individuelle ou de groupe? Il y a, à l'heure actuelle, des groupes qui sont mis en œuvre, un peu pilotes, pour voir ce que ça peut donner, par qui, comment, c'est des choses à discuter. En tout cas, voilà, discuter de tout ça. Est-ce qu'il faut mettre des préservatifs à disposition dans les unités? L'implanon, à qui le proposer? Des dépistages, des IST à proposer aussi. Donc, mais je pense que la première étape, c'est effectivement la sensibilisation des équipes médicales et paramédicales. Juste pour conclure, quand même, on a parlé du silence des psychiatres autour de la sexualité qui est quand même au cœur de l'humain. Et on peut se poser la question de savoir si finalement le fait qu'on ne parle pas de tout ça, ce n'est pas aussi un signe que finalement la relation entre le psychiatre et le patient est complètement en train de se déshumaniser. Et ça rejoint un petit peu, je pense, le propos de Mireille tout à l'heure, avec une sexualité fonctionnelle qui oublie un peu la relation à l'autre, quoi. Et puis, bon, voilà. Et juste pour finir, un grand merci à l'Entonnoir qui, outre son utilité certaine, est une association qui fait beaucoup à Marseille et qui est très dynamique. Donc je les remercie beaucoup pour leur invitation.
Merci.